On veut rendre grâce ensemble. Père Céleste, merci de la révélation de ton Fils unique, le Christ Jésus, dans chacune de nos vies, dans l'Église et dans le monde. Étends cette révélation, remplie de ta parole et de ton esprit, toute la terre habitée. Depuis les vallées, les océans, jusqu'aux plus hautes montagnes, merci de révéler cette gloire à venir. Merci de nous en faire goûter les prémices. Amen. J'aimerais continuer à vous parler du Fils de l'homme. Je retravaille ce thème depuis quelques mois. C'est un thème qui a été un petit peu oublié dans l'Église pendant plusieurs siècles. Il n'a pas toujours été très bien compris. Je crois que c'est seulement Karl Barth, dans les années 40-45, qui l'a remis au goût du jour. Et puis d'autres ont travaillé sur ce thème. Du temps de Jésus, c'était aussi un personnage, le Fils de l'homme, qui n'était pas très bien compris. En tous les cas, de tous ceux qui dirigeaient le pays, qu'ils soient politiques ou religieux. Et c'est pour ça que Jésus a eu autant de peine à imposer sa révélation ou à la faire passer, et que ceux qui l'ont reçu étaient plus dans des cercles périphériques en Israël. On a vu, il y a 3 semaines, ce mot de Étienne à la fin de sa lépidation qui disait « Seigneur, pardonne-leur ». Et puis il disait « Je vois les cieux ouverts et je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu vivant et qui reviendra sur les nuées du ciel. » De même que Jésus devant Caïphe qui lui dit « Mais t'es qui toi ?» Il dit « Moi, si je suis roi, c'est toi qui le dis. Moi, je suis le Fils de l'homme. » Qui est à la droite de Dieu et qui revient. Et Caïphe de crier « blasphème ». Ça suffit, on ne veut pas en entendre plus. Étienne reprend cette chose dans Matthieu. Jésus interpelle ses disciples et Pierre et leur dit « Mais au dire des hommes, qui je suis ?» C'est pas que lui avait un problème, mais il se dit « Tiens, c'est quoi l'écho ?» parmi le peuple de ce que je suis. Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme, au dire des hommes ? Et Pierre a cette révélation extraordinaire, spirituelle, céleste. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Cette figure extraordinaire, on trouve un texte, très beau si vous avez du temps, lisez dans le prophète Daniel, au chapitre 7, il y a cette figure du Fils de l'homme qui est à la droite de la majesté divine et qui revient pour juger le monde. Qui suis-je ? Jésus est conscient qu'il est quelqu'un, qu'il est prophétique, messianique. Le Christ est Messie, c'est la même chose. Et il est aussi ce personnage eschatologique, c'est-à-dire des temps derniers. Est-ce qu'en 2022, à Kévin dans le monde, on attend encore le Fils de l'homme ? Celui qui va venir pas seulement pour juger les nations, mais il revient pour démontrer la puissance de Dieu. Cette notion de Fils de l'homme nous invite à entrer dans une vocation, dans une identité, une vie nouvelle en Jésus-Christ, le Fils de l'homme. C'est-à-dire quelqu'un qui a traversé les mêmes épreuves que nous en vainqueur. On verra, hein, chez Paul, on n'a pas la notion de Fils de l'homme, mais on a une autre notion qu'on lira. Le premier Adam a chuté. Le deuxième Adam est venu pour reprendre le flambeau, la réparation. Et puis lui, il va aller jusqu'au bout de manière parfaite. Là où Adam est tombé, Jésus va marcher jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection et jusqu'à la gloire. J'aimerais reprendre un texte avec vous qu'on a souvent lu, mais j'aime la pédagogie de la répétition. J'en ai besoin pour moi. Jean-Marc disait, voilà, on commence à être un peu malentendant. Et puis finalement, le Seigneur, tout au long de notre vie, essaye de nous faire passer des messages comme ça fort. Et on a cet hymne ancien qui est repris par Paul dans Philippiens 2, les versets 5 à 11. Je le lis souvent, hein, mais je le relis, c'est bien de lire l'Écriture en Église. Ouais, ça va pas, hein, le micro est de côté. Comment on fait pour le mettre dans l'autre sens ? Voilà, sinon l'enregistrement n'est pas très bon. Hein. Donc excusez ce moment technique délicat. La perche, on achètera une autre. Sinon. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est un texte, une parole vivante de Dieu, dont tous ceux qui aimeraient être dans le service de Dieu devraient le lire, l'écrire sur leur front, sur leur cœur, dans leur esprit, sur leurs pieds, je ne sais pas comment le dire. Aujourd'hui, on cherche des potes, des postes, des titres, des satisfactions sociales, de pasteurs, d'apôtres, de prophètes. Ce texte est extraordinaire, parce qu'il nous rappelle que Christ, en tant que vrai homme, là où Adam a raté quelque chose, Jésus a été jusqu'au bout. Il n'a pas hésité à perdre pour un temps cette gloire qui était la sienne dans les cieux. Il s'est dépouillé, il s'est humilié lui-même. Depuis un peu plus de 40 ans, avec Jean-Marc, on s'interroge toujours, hein, c'est quoi l'Église apostolique ? C'est quoi une Église avec des apôtres, des prophètes, des ministères ? C'est quoi un apôtre ? Je m'aperçois que j'en ai rencontré assez peu pendant ces 46 ans. Et pour moi, ceux qui se disaient apôtres avaient ce texte dans leur cœur. C'est des gens qui savaient ce que c'était que l'abaissement et l'humilité. Pas un titre, pas une reconnaissance, mais un service. Jésus est venu pour servir. Il est venu comme Sauveur Seigneur, mais avec un service. C'est très fort, comme il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Qui a envie parmi nous de prendre une forme de serviteur ? Souvent je dis, hein, c'est comme mon métier de jardinier, c'est un métier. C'est toute la vie où il faut être attentif, vigilant, à garder un esprit de service. Et pas un esprit de domination, de manipulation. C'est pour ça que j'aime toujours beaucoup ce texte, et je le lis, je le relis. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. L'obéissance, c'est un métier. C'est un apprentissage, c'est une formation qui n'est jamais finie. Jamais finie. Encore aujourd'hui, je me dis, quand je lis ce texte, prends-le toujours pour toi. Il est toujours d'actualité. Après, à la fin, il y a « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé ?» Beaucoup aimeraient être souverainement élevés. Mais pour cela, il faut vivre la première partie. Dépouiller lui-même, prenant une forme de serviteur. Humilier lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. On a lu il y a 3 semaines le témoignage d'Étienne, hein, martyr, avec tout un discours où on voit déjà la conscience qu'il avait de qui était Jésus, la révélation intérieure profonde. 2 hommes sont marquants dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean et l'apôtre Paul, parce qu'ils ont une pénétration, une compréhension de qui était Jésus, qui est tellement extraordinaire. Et on a des textes de Paul qui reprennent des hymnes anciens, tellement magnifiques. Qui était Jésus ? J'aimerais reprendre un texte avec vous dans Genèse, au chapitre 3 et le verset 15. C'est un des textes les plus cités de la Genèse. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête. Tu lui blesseras le talon. On dit que ce texte est déjà le premier texte d'une annonce d'un salut, d'un sauveur, d'un Messie, d'un Christ. Il y a opposition entre l'œuvre de l'ennemi et l'œuvre de Dieu. Adam n'a pas choisi le bon arbre. C'est question de choix ce matin. Il avait le choix entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a choisi le deuxième. Et avec cette chute, le premier couple, eh bien, le désordre est entré dans le monde. Le serpent a été maudit. Et c'est 2 lignages qui s'affrontent. Et l'affrontement n'est toujours pas fini. Même si dans le ciel, l'ennemi a été délogé. Pour tous ceux qui croient en Jésus, il y a une autorité, une puissance du péché, de la mort, de l'ennemi qui est coupé, qui est délié. Celui-ci t'écrasera la tête. À la croix, la tête de l'ennemi, pareil, si vous avez du temps, hein, dans Colossiens 3, on a un texte extraordinaire où il est dit que Jésus a été glorifié sur la croix et la puissance de l'ennemi a été précipitée. Celui-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Christ a été blessé sur la croix, mais ça n'a pas suffi pour le mettre KO. Qui va réparer ce que la chute a entraîné? Des ruptures dans les relations, des ruptures avec la création, qui sont en train d'atteindre un niveau très élevé, des ruptures dans les relations entre les hommes, destruction. Je vous rappelle, le XXe siècle, point culminant, couronnement, 2 guerres mondiales, avec en 1945, si je vous dis le mot, Hiroshima. Depuis, la peur nucléaire est entrée dans le monde. 77 ans après, elle ressurgit. Et les journalistes font de l'exégèse. Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est... En ce moment, Catherine n'aime pas trop regarder les infos, et c'est déprimant. Et c'est des discussions infinies pour essayer de savoir qu'est-ce que le maître des horloges, le maître du Kremlin, qu'est-ce qu'il a dans la tête, où il veut aller. La capacité de destruction. Le monde compte à peu près, rien qu'en Occident, 15 000 têtes nucléaires. Chacune plus puissante que Hiroshima. Quand j'avais 20 ans, les milieux où j'étais à Valenciennes, il y a un bouquin qui circulait, qui s'appelait « Le fou est-il normal ?». C'est un japonais, un psychiatre, qui l'avait écrit. Et il faisait une analyse de Hiroshima en disant « Mais il y a quelque chose qui a vrillé. » Et la vrille, elle est toujours là. C'est-à-dire que des hommes sont prêts à dire « C'est moi qui ai la tête nucléaire la plus armée. » Celui-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Des hommes sont prêts à aller jusqu'à la destruction totale du monde. L'ennemi aimera détruire la création que Dieu a faite. S'il n'y avait pas l'Église, l'Esprit Saint, la parole de Dieu qui essaye de continuer de tenir un petit peu la maison, de tenir les choses, où sera le monde, où irait le monde ? Folie humaine, depuis il y a eu Tchernobyl, Fukushima, des accidents nucléaires qui font que le pays devient impropre. On ne peut plus y vivre. Et des êtres humains sont prêts à infliger la même chose à d'autres. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon, agréable à manger. C'était question de nourriture ce matin. Et le cœur de ce message ce matin, c'était choisir la vie. Choisir la vie à nouveau en Jésus-Christ. Premier Adam a choisi connaissance du bien et du mal. Le mal jusqu'au mal absolu. Jusqu'au mal absolu. Le XXe siècle a fini de mettre un voile sur les capacités de l'espèce humaine. Avant, on se battait avec des épées, des flèches. Ça pouvait faire des milliers de morts, mais c'était des soldats de métier. Aujourd'hui, on détruit des pays, des villes, Il y a une folie dans le monde. Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Combien d'hommes aujourd'hui veulent, au travers de la science, la technologie, nous prouver que nous pourrions être des dieux, aller vivre sur d'autres planètes, connaître les mystères de la création du Big Bang, des trous noirs, ce que sais-je encore. La chute de Adam, la chute du premier couple, première désobéissance, première séparation, première brèche, première rupture au niveau de la relation avec Dieu, qui a toujours été difficile, compliquée, rupture avec la création, rupture des relations humaines, tout simplement, on ne se comprend plus, on ne se voit plus, on ne s'invite plus, on ne se parle plus, on ne mange plus ensemble. La race humaine a besoin de réparation, de réconciliation. Le péché est un mot qui est dévalorisé. Les gens ne savent plus très bien ce que c'est. Le péché, c'est simplement rater la cible. Voilà, sans être écolo, mais c'est vrai qu'il y a des rapports depuis 20, 30 ans. Moi, je connais ça depuis plus de 50 ans, parce que déjà quand j'avais 20 ans, on était sensible à ça. Au mois de mai, la France a mangé toute l'énergie qui aurait pu être renouvelée. C'est-à-dire qu'à partir de cette semaine, eh bien, on consomme déjà au-delà de ce que la Terre peut régénérer. Ça, c'est que la France. Après, les États-Unis, la Chine, Voilà, il y a une alerte sur le bien-être de la Terre, de la planète, qui fait que tôt ou tard, tout sera en danger. Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Mais apparemment, c'est un dieu qui est tout petit, parce qu'on a de la peine, on a de la peine à comprendre et à faire là aussi des choix de vie. Seule cette figure du Fils de l'homme, le Christ Jésus, lui seul peut revenir et puis faire que les puissants de ce monde et les plus humbles, les plus faibles, puissent plier le genou devant lui. Un jour, ce sera une réalité. Prions pour que soit de vivre, ou en tous les cas, que cette réalité vienne le plus rapidement possible. J'aimerais lire avec vous dans 1 Corinthiens 15. On va lire qu'est-ce que Paul nous dit de ce Fils de l'homme, ce nouvel Adam. 1 Corinthiens 15, verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes, des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps incorruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Un texte qui nous parle d'un changement, d'une vocation, de quelque chose de nouveau. Nous étions corps naturel, terrestre, qui a son éclat. Mais ce qui nous attend en Jésus-Christ, tellement différent. Corruptible, méprisable, infirme, glorieux, plein de force, spirituel, incorruptible. Quelque chose d'entièrement nouveau. Est-ce que nous avons soif? d'attendre et de vivre quelque chose d'entièrement nouveau. Adam et chacun d'entre nous, par notre naissance de chair et de sang, il y avait une brèche, une rupture, une coupure à la relation avec Dieu. Au travers du Christ, du Fils de l'homme, qui s'est abaissé, qui a été fait serviteur pour nous, qui s'est humilié jusqu'à la mort, c'est-à-dire qu'il a partagé notre condition. Et par sa résurrection et sa glorification, cette condition est changée. Le Fils de l'homme, il nous a dit dans Romains, est fait Christ par la puissance de sa résurrection. Il aura quelque chose de nouveau. Le Christ dans la gloire est plus le même que Christ dans sa préexistence, dans le fait d'être avant près de Dieu. Il est descendu, il a pris une forme humaine, il est monté vers Dieu, et on a tous ces textes, on l'a lu il y a 3 semaines. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à moi, droite. On a 2-3 textes où il est dit, sois élevé, monte, assieds-toi à ma droite. Et on a 2 ou 3 textes où il est dit, il est debout à la droite de Dieu. Et quand il y aura, alors je dis le coup de sifflet final, il est dit la trompette, de debout, Christ va se mettre en marche pour nous, si on est vivant. Je me réjouis d'entendre la trompette. J'espère que mes oreilles seront bien débouchées, bien réveillées pour entendre. C'est ce texte qu'on vient de lire. Hein. Même du temps de l'apôtre Paul, c'était compliqué. C'est quand la résurrection, c'est quand Jésus revient. On est presque 2 millénaires après. Cette espérance est toujours vivante par le Saint-Esprit. Le premier être vivant est terrestre. Il y a une différenciation, vous avez vu dans ces textes, entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Le deuxième Adam est venu pour faire quelque chose de nouveau. Nous étions une âme vivante, interaction avec le monde. Nous devenons un esprit vivant, capable d'entendre la voix du Dieu vivant. Alléluia, quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes porteurs de l'icône, de l'image de Dieu. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du terrestre. En Christ, nous portons déjà quelque chose de nouveau. Si je vous dis un prénom, Christophe, porteur de Christ, porteur de l'image du Christ, porteur de l'image du Fils de l'homme, avec un héritage extraordinaire. Incorruptibilité de notre corps. Un jour, l'arthrose, tous nos problèmes de... Plus on avance en âge, plus on est porteur de petites défaillances. Hein, en un clin d'œil, au son de la trompette, ce corps mortel revêtra l'immortalité. Je suis un amoureux de l'immortalité. Pas celle des GAFA américains qui veulent nous bricoler une espèce de longévité améliorée. Ça fait quelques années, souvent, quand je ferme les yeux, un des meilleurs moments de la journée, je dis, ah, Seigneur, waouh. La vie éternelle qui est auprès du Père, elle est en moi. Et toutes mes questions, tout le bouillonnement de vie qui est en moi n'aura pas de fin. C'est pas être orgueilleux, c'est simplement se dire, voilà, je te rends gloire, Seigneur, de ce que tu as déposé dans mon cœur, quelque chose qui est tellement extraordinaire. Et régulièrement dans la semaine, ça... Ah, je trouve que c'est motivant. Hein. On cherche parfois des clés de motivation. Moi, tous ces textes et tout ce que je continue d'apprendre en Christ. Jésus le Christ, le Fils unique de Dieu, le Messie, le Fils du Dieu vivant et vrai, et le nouvel Adam, le deuxième Adam, un esprit vivifiant. Et il veut que cet esprit vivifiant soit dans le cœur, dans l'esprit, dans la vie de chacun. Il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Tout ça, on le trouve dans l'Apocalypse détaillé. Jean-Marc Tobois avait une expression, il est le réparateur des brèches. Le péché introduit une brèche dans le monde qui va jusqu'à la création. Jésus va revenir et il va réparer, il va recoudre, ce ne sera pas seulement un vieux vêtement réparé, il va faire du neuf. J'aimerais lire avec vous encore deux textes et puis on arrêtera là et je continuerai une autre fois. Donc vous n'avez pas fini d'entendre parler du Fils de l'homme. Mais il y a tellement de textes et c'est tellement riche. Hébreux, chapitre 1, les versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Christ est héritier de tout ce que Dieu a créé. Terre, ciel et l'humanité. Je suis l'héritage de Christ. Nous sommes l'héritage de Christ. Chacun pour notre part. Le Fils est le reflet, la gloire, l'empreinte de sa personne. Le mot empreinte, en grec, c'est le mot caractère. Ça vous dit quelque chose ? Que le caractère de Christ soit présent et pleinement puissant dans notre vie. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Le Fils de Dieu est aussi Seigneur. C'est toute cette richesse des titres de Christ. Il a fait la purification des péchés. Il a réparé, il vient pour réparer la brèche. J'aimerais encore lire un autre texte. J'espère qu'il ne va pas vous fâcher. Parce qu'il parle de choses puissantes. Mais parfois difficile. Hébreux 5:5. Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit : Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il est dit ailleurs encore : Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus a été exaucé à cause de son obéissance. C'est le mot un peu grain de sable dans la machine. Qu'est-ce que ce mot évoque pour vous ? Moi, j'ai eu de la peine avec ça. Je parce qu'à 22 ans, j'étais un peu désobéissant au niveau familial et au niveau social. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens désobéissants qui sont contre, qui n'aiment pas, qui... revendications. Il paraît que les Français sont assez revendicatifs. L'obéissance, c'est un mot qui grippe, qui on a un petit peu de mal à faire avec. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jean-Marc dit souvent, hein, il y a un chant, « Ma vie est remplie de roses, c'est un beau jardin fleuri. » Je garde le jardin fleuri. Après les roses, je me suis piqué avec un rosier il y a pratiquement 3 semaines. Quand j'appuie encore au bout, là, ça me fait encore mal. Les roses sont belles, ça pique. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La vie nous blesse, on l'a entendu ce matin, tu as été blessé dans la vie. Ça suscite de la colère, des choses difficiles. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça vient en premier. Et ce qui vient après, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Christ obéit au Père, nous obéissons à Christ. C'est une chaîne vertueuse, c'est un métier. L'obéissance est un métier. La formation tout au long de la vie. Aujourd'hui, tous les salariés ont un livret formation sur lequel l'employeur, l'État, met un petit peu d'argent. Puis, toute notre vie, le Père va nous mettre des finances pour apprendre l'obéissance par les choses que nous allons traverser, qui ne sont pas toujours agréables. Père Céleste, merci pour ce titre, cette identité de ton Fils. Fils de l'homme semblable aux hommes. Merci pour ce corps de chair, ce corps naturel. Merci pour ce corps céleste. Merci pour l'immortalité, l'incorruptibilité. Merci pour ce partage du pain et du vin. Seigneur Jésus, merci de nous nourrir de ta parole, de ta présence, par la prière, la louange, l'adoration. Merci de tout ce qui nous rend plus riches dans la vie de toi. Amen.